7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RJFM.
Ils font l'actu, ils sont sur notre antenne chaque matin. Ce matin, notre invité Joseph Roudillon, bonjour.
Bonjour.
Conseiller municipal d'opposition à Montluçon au sein du groupe Montluçon Ensemble, au lendemain donc de ce vote du budget. Je le disais dans le journal tout à l'heure, budget 2021 adopté, mais sans les voix de l'opposition, votre groupe, Joseph Roudillon, a voté contre. Pourquoi ?
Pour les raisons qui ont été exposées par l'ensemble des groupes d'opposition, c'est-à-dire que c'est un budget qui certes est prudent, mais justement, je pense que Montluçon depuis de nombreuses années, et particulièrement dans cette crise, a besoin d'audace, a besoin de projets ambitieux. Cette crise, effectivement, représente des difficultés pour notre ville comme pour l'ensemble du territoire. Mais il y a des opportunités à saisir que le budget, précisément, devrait servir à financer.
Notamment vis-à-vis de ceux qui souffrent le plus de la crise, c'est ce qu'ont dit certains de vos collègues d'opposition, c'est ce que vous auriez souhaité aussi, qu'on aille un petit peu plus loin, notamment vis-à-vis du CCAS par exemple.
Oui, d'une part, et d'autre part également pour attirer sur Montluçon de nouvelles populations. Je rappelle qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont, on va dire, saisi l'opportunité d'un certain nombre d'habitants de métropole de revenir dans des villes moyennes à taille humaine, une opportunité qui n'a pas été saisie par notre collectivité.
Ouais. Comment on peut justement essayer de surfer sur une vague avec des gens qui effectivement, vu le contexte, veulent parfois quitter les grandes villes? Ça serait ça en fait, les attirer dans une ville comme Montluçon, mais quel levier on peut actionner finalement?
Alors déjà, ça suppose que soit résolu le problème majeur des transports, et par ailleurs c'est avant tout une politique de communication qui met en avant tous les atouts de notre ville, que ce soit en termes donc de bien vivre au quotidien, mais également en termes d'accessibilité à différents services.
Mettre en avant l'attractivité finalement,
c'est ça ? Tout à fait, l'attractivité, l'image de la ville.
En termes d'investissement, il y a à peu près une enveloppe de 13 millions, vous estimez que c'est suffisant ou vous estimez qu'on aurait pu être un peu plus audacieux comme vous le disiez et justement profiter de la période actuelle pour mener à bien certains projets?
Il est clair que les finances sont contraintes, par contre il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, et notamment ça a été débattu encore hier, le choix du parking dit d'entrée de ville qui n'est absolument pas opportun dans le contexte actuel et qui n'a pas non plus de véritable utilité.
Alors justement, on va en parler de ce parking. En fait, volonté de la municipalité, de la majorité, d'aménager un parking et îlot Sainte-Geneviève, hein, autour de l'avenue de l'Europe, là où il va y avoir notamment ce, normalement peut-être, ce fameux multiplex. On va en parler parce que les recours sont nombreux. Vous dites, oui, il n'a pas sa place à cet endroit-là. Certains élus d'opposition ont dit que, par exemple, du côté du quartier des Marais, ça aurait été peut-être plus adapté. C'est aussi une entrée de ville.
Oui, effectivement, au niveau de la localisation, le quartier des Marais, où le parking d'ailleurs existe déjà, ouais, mais il aurait besoin effectivement d'être réaménagé, aurait été sans doute un choix beaucoup plus opportun, mais c'est le principe même de ce parking qui pose question et qui pose difficulté, vous venez de le dire. Il est a priori destiné à desservir un multiplex qui, en l'état, n'a aucune certitude quant à sa réalisation. Il y aurait des projets beaucoup plus importants, et notamment la passerelle donc effectivement des Nico, qui fait partie du patrimoine montluçonnais, auquel nos concitoyens sont attachés, et qui aurait mérité effectivement une rénovation.
Alors justement, cette passerelle, il n'en a pas été question d'ailleurs hier soir.
Non, je crois que ça a été largement débattu, et puis le maire a été très clair lors du dernier conseil municipal en indiquant que sa décision était prise et qu'il n'y aurait aucun retour en arrière.
Ce que vous regrettez, vous étiez mobilisé contre la déconstruction à venir sans doute de cette passerelle?
Bien sûr, nous l'avons toujours dit, Montluçon a un patrimoine riche, un patrimoine qu'on peut résumer entre le patrimoine médiéval et le patrimoine industriel. S'il reste dans notre ville, fort heureusement, beaucoup de traces de notre passé médiéval, en revanche, notre passé industriel glorieux ne présente aujourd'hui malheureusement que peu de vestiges. Cette passerelle en faisait partie, elle a en outre une véritable utilité, et il est parfaitement dommageable, effectivement, d'avoir décidé sa destruction.
Quand on vous oppose le coût que cela aurait de la remettre en état, vous êtes voilà,
c'est une question de choix, et je pense que les fonds qui sont destinés au parking, les fonds importants, auraient pu être orientés de façon plus opportune vers cette passerelle qui aurait dû d'ailleurs dès l'origine être intégrée dans le projet C'est Montluçon. C'est un des reproches qu'on peut faire au projet C'est Montluçon, c'est que finalement il intègre très peu effectivement ce qu'on appelle l'existant, et notamment l'existant patrimonial de Montluçon.
Alors, autre dossier qui a été évoqué hier, c'est le passage de la vidéo protection à la vidéo surveillance. On en avait parlé sur cette antenne il y a déjà quelques jours, c'est-à-dire qu'il y aura désormais, dans les prochaines semaines, eh bien quelqu'un derrière les caméras, ce qui n'était pas le cas. Alors, sur le principe, déjà, vous n'êtes pas fondamentalement opposé, mais vous avez quand même dit hier qu'il faudrait surveiller un petit peu avec un comité d'éthique, parce qu'on est toujours sur des questions de vie privée, là.
Oui, j'ai toujours dit que la responsabilité, effectivement, des collectivités ou d'un décideur public, c'est d'équilibrer, d'arbitrer entre des intérêts différents. Nous avons effectivement le besoin de sécurité qui est une véritable exigence de nos concitoyens et qui est un besoin fondamental du citoyen. J'ai coutume de dire que si le droit à la santé fait partie des droits premiers d'un individu, dans les droits premiers d'un citoyen, il y a effectivement le droit à la sécurité. Et il y a un problème de sécurité dans notre ville, nous le savons. Donc il est bien de vouloir y remédier par plusieurs moyens et notamment le système donc de la vidéoprotection. En revanche, il faut par ailleurs garantir les libertés individuelles et c'est la raison pour laquelle, tout en votant favorablement pour ce dispositif, nous avons proposé la mise en place d'un comité d'éthique qui serait chargé effectivement de vérifier que ce système de vidéoprotection ne connaît pas de dérive par rapport aux atteintes aux libertés individuelles.
Mmh. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, des dérives concrètement?
Oui, bien sûr, ça peut arriver, tout à fait. Il y a un certain nombre de garanties qui sont données, fort heureusement, par le Code de la sécurité intérieure, mais nous estimons qu'elles sont en l'état peut-être sans doute insuffisantes. Il faut aussi que le système soit compris des citoyens. Et pour qu'il soit compris des citoyens, c'est peut-être là aussi l'occasion de les associer effectivement à cette surveillance éthique du dispositif.
On reviendra évidemment dans nos prochains rendez-vous d'infos sur ce centre de supervision donc qui est en projet, qui est voté désormais. Vous aviez été, Joseph Roudillon, parmi les personnes qui s'étaient élevées lorsque avait été votée notamment la protection fonctionnelle accordée à un ancien élu du conseil municipal de Montluçon. On se souvient que votre groupe notamment avait quitté la salle du conseil. Vous le regrettez après coup, ça, ce départ de la salle du conseil, ou c'était une manière pour vous de vous opposer finalement à ce qui était débattu?
Non, nous avons toujours dit, je regrette et nous ne regrettons absolument pas notre départ de la salle du conseil qui, contrairement à ce qui a été écrit par le maire dans le dernier MNV, ne s'est absolument pas fait dans le fracas ou le brouhaha. Je crois d'ailleurs que vous étiez témoin, vous pouvez en attester. Nous avons quitté sereinement et sans autre déclaration la salle du conseil, ce qui se pratique d'ailleurs assez souvent au niveau de l'Assemblée nationale, y compris par les amis du maire en place lorsqu'il y a un désaccord profond. Et il y avait sur cette délibération un désaccord profond parce que nous touchons là à la moralité même de la vie publique. Les fonds publics ne sont pas destinés à protéger des intérêts privés.
Lorsque le maire dit c'est un droit finalement pour un ancien élu de réclamer cette protection fonctionnelle, c'est pas votre vision des choses. D'ailleurs, vous contestez toujours cette délibération là.
Oui, je considère qu'effectivement la protection fonctionnelle, ça n'est pas ça. La protection fonctionnelle, c'est effectivement protéger l'élu qui agit dans le cadre de ses fonctions comme représentant de la collectivité. Ça n'est pas protéger un élu quel qu'il soit. Et je le rappelle, la présomption d'innocence n'est pas en cause, qui est accusée d'un délit de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire le fait d'utiliser ses fonctions d'élu pour obtenir un avantage personnel. C'est un dévoiement de la protection fonctionnelle. Nous avons saisi le tribunal administratif qui dira si cette délibération est légale, mais je maintiens, quoi qu'il en soit, que du point de vue de la moralité, c'est une délibération profondément immoral, qui heurte les principes de base de la probité, et si j'en crois d'ailleurs la remontée de terrain, comme on dit, que j'ai eu de nos concitoyens, c'est un avis qui est très largement partagé dans la population, et à juste titre. Ça ne participe pas non plus de la défiance qu'il y a également actuellement vis-à-vis des élus.
Vous allez la contester jusqu'au bout, là, cette mesure-là, donc tribunal administratif, vous l'avez dit,
ça y est. Oui, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est saisi, effectivement, depuis samedi dernier.
Voilà. On a l'impression que cet épisode, il a quand même laissé des traces, parce que c'est revenu un petit peu sur le carreau hier, avec justement l'intervention du maire dans le dernier magazine municipal, qui parlait de calomnies que vous réfutez.
Bien évidemment. Nous avons toujours considéré, c'est un des mots d'ordre de notre campagne, de dire que l'action publique, comme toute action, doit être guidée par des valeurs. Dans les valeurs que nous avions avancées, il y avait le courage, la bienveillance et la probité. Et en particulier, le magazine municipal ne doit pas être utilisé à des fins partisanes par des attaques ad hominem contre non seulement des élus dont je fais partie, mais également des citoyens qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir répondre. Je rappelle que le maire, désormais, est le maire de tous les Monts-Luçonnais. Et en cette qualité, il devrait prendre effectivement un petit peu de hauteur et éviter ces attaques personnelles contre des citoyens qui, au demeurant, n'ont fait qu'exercer les droits qui leur sont reconnus.
Mmh. Le maire vous a opposé hier une scène pendant la campagne des municipales avec certains membres du groupe que vous emmeniez, qui voilà avait un petit écriteau autour d'une chèvre voilà dans la ville. Ce que vous avez condamné également, et vous le répétez ce matin.
Bien évidemment, c'est un épisode isolé qui vient pas d'ailleurs d'un membre du groupe. Je l'ai pas personnellement constaté. Mmh. À l'époque, le candidat Laporte s'en était plaint auprès du candidat Roudillon. J'avais dit effectivement que je condamnais procédé. Pour autant, au moins, cette personne donc avec la chèvre avait au moins le courage de s'afficher, ce qui n'a pas été le cas. Je le rappelle, donc des clés USB anonymes que j'ai reçues, ni du trac absolument infamant qui a été rédigé par les et distribué par les membres de la majorité, là aussi anonyme. Nous avons toujours signé tous nos actes, et dans nos actes, il n'y avait ni haine, ni calomnie, ni injure. J'ai mis au défi hier le maire, puisque c'est ce dont il nous accuse dans le MNV, de rapporter un début de preuve à ces accusations, et comme vous avez pu le constater, il a été dans la capacité de le faire.
Il reste 15 secondes, juste, vous espérez que ce conseil, alors globalement hier, 90% de débats se sont déroulés dans la sérénité d'ailleurs, mais que ça soit le cas vraiment tout le temps?
Oui, nous avons toujours souhaité que les débats se passent dans la sérénité, qu'il y ait d'ailleurs une véritable discussion. Nous sommes désormais dans le mandat de la majorité, et nous, comme opposition, nous voulons avoir dans ce mandat un rôle constructif, un rôle d'amendement, un rôle d'amélioration, effectivement, des projets qui sont élaborés et présentés par la majorité.
Joseph Roudillon pour le groupe Montluçon Ensemble au Conseil Municipal, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ce matin en direct au lendemain de ce vote du budget. 7h56 sur RJFM, on continue dans un instant.
7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.